L'éblouissante sainteté. À quoi bon tout cela, songeras-tu, en sortant de la basilique du Saint-Sauveur, si à 80 ou 90 ans, et parfois bien avant, notre vie s'arrête et s'achève à la tombe que d'autres auront creusée pour nous. Descendons alors quelques marches, non vers ta sépulture ni la mienne, mais pour entrer dans la chapelle Sainte-Anne. Modeste par sa taille, elle est dédiée à celle qui, sur la terre, fut pourtant mère de la Vierge Marie et grand-mère du Sauveur. Quelle femme ne rêverait pas d'une destinée si extraordinaire ? Modèle des éducatrices, elle va ici, en nous montrant la gloire de sa fille, tourner nos yeux vers l'éternité qui nous attend, roc de notre espérance et moteur de notre enthousiasme. Regarde l'autel de sa chapelle. Son bas-relief doré ne peut échapper à ton regard. Autour d'un tombeau, 14 personnages manifestent leur émotion, et chacun à sa manière. 12 hommes et 2 femmes, dont l'animation et les attitudes trahissent l'événement extraordinaire qu'ils viennent de constater. Ce sont les 12 apôtres et les saintes femmes qui suivirent Jésus jusqu'à la croix. Cette fois, c'est sa mère, la Vierge Marie, qu'elles ont accompagnée jusqu'à l'extrême limite où peut aller un vivant. La scène représente l'Assomption de la Bienheureuse Mère de Dieu, que l'Église célèbre solennellement le 15 août. Jour férié au cœur de l'été, le 15 août fut le jour de la fête nationale de la France à partir de 1638, après que le roi Louis XIII eut consacré sa personne et son royaume à la Vierge Marie en reconnaissance pour de nombreuses grâces et en particulier celle de la conception du futur Louis XIV. Après 22 ans de mariage, en effet, les époux royaux étaient toujours sans enfants, la reine ayant multiplié les fausses couches. Louis Dieudonné naquit le 5 septembre 1638, fruit de tant de neuvaines et de pèlerinages. Aussi, avant même sa naissance, le roi fit-il le vœu que soit faite chaque année, le jour du 15 août, une procession solennelle dans toutes les églises du royaume, et qu'à cette occasion sa consécration fût renouvelée en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Hormis pendant les troubles révolutionnaires, cette procession a été perpétrée au fil des siècles. Aujourd'hui, en plus d'un acte de louange et de gratitude envers Marie, selon le vœu royal, c'est un témoignage de foi et une forme publique d'évangélisation. Ce n'est qu'en 1880 que le 14 juillet devint officiellement le jour de la fête nationale à la place du 15 août. Ni les évangiles, ni les actes ou les lettres des apôtres ne relatent l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Cependant, la tradition chrétienne en a conservé la mémoire à travers les enseignements des premiers pères de l'Église sur la Vierge Marie et dans un récit intitulé « Transitus Mariae », le passage de Marie, remontant au IIe siècle. Ce texte nous transmet des traditions populaires orales, témoins de l'attachement fidèle du peuple de Dieu à sa Sainte Mère. Très tôt, en effet, dès les premiers siècles, les communautés chrétiennes ont célébré solennellement le jour du 15 août, la mort très douce de la Vierge Marie et son entrée dans la gloire du ciel, corps et âme. Denis, l'Aéropagite au 1er siècle, saint Ambroise, évêque de Milan de 374 à 397, saint Modeste, patriarche de Jérusalem en 614, saint Jean d'Amastène au 7e siècle ou encore saint Germain de Constantinople au 8e siècle, évoquent dans leurs écrits la sainteté de Marie, Mère de Dieu, et les circonstances de sa fin terrestre. On peut se fier à leurs paroles, puisque différents papes de l'Église, ainsi que le Concile Vatican II, s'y réfèrent et les citent avec confiance. Ces témoignages nous permettent d'aller en pensée à Jérusalem, sur le mont Sion, en ce moment unique où les anges invisibles aux yeux des hommes, mais réellement là, cependant, entourèrent de leur céleste présence l'humble Mère de Dieu sur le point de quitter la terre. Les apôtres se trouvèrent transportés eux aussi de leur lieu de mission au chevet de celle qui était devenue leur mère au pied de la croix. Don de bilocation, comme cela a été donné à certains saints par la suite, ou effet singulier du souffle du Saint-Esprit qui renouvelle sans cesse la création, les voilà réunis comme au jour de la Pentecôte autour de la bienheureuse Vierge qui, dans un élan d'amour, remettait son âme entre les mains de son Fils unique, de même qu'il avait remis la sienne à son Père sur la croix. Seul l'apôtre Thomas se trouvait absent. Ayant porté son corps en procession à travers la ville de Jérusalem, les apôtres donnèrent à la Vierge une sépulture dans le jardin de Gethsémani, là où le Christ vécut une agonie si cruelle que son corps transpira du sang. Ainsi, jusque dans sa mort naturelle, Marie fut associée à la passion et à la mort de son Fils. Sa tombe fait partie des lieux saints à Jérusalem. Elle est vénérée sous l'église de l'Assomption, bâtie sur le mont des Oliviers. On y accède par un escalier donnant sur un couloir qui mène à un ensemble de cryptes funéraires situées près de la grotte de Gethsémani. En 1972, à la faveur de dégâts importants causés par des pluies torrentielles, une équipe d'archéologues franciscains dirigée par le père Bellarmo Mino Bacati mena des fouilles complètes et identifia des tombes du 1er siècle. Les résultats de leurs études sur place concordaient bien avec les récits littéraires anciens de la sépulture de la Vierge, notamment ceux du Transitus. Ce n'est pas la première fois que l'archéologie prouve ce que la tradition orale affirme. Ce fut le cas, par exemple, de la tombe de Saint-Pierre, formellement identifiée sous la basilique Saint-Pierre de Rome, à la suite de travaux dans le sous-sol pour réaliser la sépulture du pape Pie XI. Ceux qui pensaient qu'il s'agissait d'une légende pour justifier le pouvoir papal établi dans la ville éternelle durent reconnaître la réalité des faits. Marie, la toute pure, l'immaculée, préservée du péché dès sa conception miraculeuse dans le sein de Sainte-Anne, ayant adhéré pleinement et librement à la volonté du Père, manifestée par la voix de l'ange le jour de l'Annonciation, ne pouvait pas subir la corruption de la chair, conséquence du péché originel dont elle est exempte. Et la tradition de l'Église affirme donc qu'après 3 jours de dormition au tombeau où elle passa par la mort corporelle, comme Jésus de la nuit du vendredi saint au matin de Pâques, elle monta mystérieusement au ciel avec son corps glorieux, comme le Christ le jour de l'Ascension. Saint Thomas, qui avait rejoint les apôtres, s'attristait de ne pas avoir pu contempler une dernière fois le corps très pur de la bienheureuse Mère de Dieu. Ils se rendirent donc sur le lieu de sa sépulture et trouvèrent le tombeau vide. Il ne restait que les linges qui avaient servi à ensevelir son corps. Les premiers chrétiens conservèrent ensuite pieusement ces précieuses et saintes reliques qui confortaient leur espérance dans la gloire éternelle où son Fils l'avait couronné reine du ciel et de la terre. La Mère de Dieu ne cesserait pas de veiller sur eux. C'est cet instant suivant la découverte de la disparition corporelle de la Vierge que le sculpteur du bas-relief a voulu saisir. Au centre, un apôtre et l'une des 7 saintes femmes trouvent sur le tombeau les linges sépulcraux et les palpes, comme pour bien s'assurer que le corps de Marie n'est plus là. Mais ce n'est déjà plus le centre d'intérêt principal de la plupart de leurs compagnons. La seconde femme, à genoux près de la sépulture devenue inutile, regarde vers le ciel comme le font plusieurs apôtres autour d'elle. La couronne de fleurs qu'elle avait apportée pour honorer la Vierge ne parfumera pas son front. Et ceux qui fixent encore le lieu de l'ensevelissement de Marie sont comme perdus dans un mystère qui les laisse profondément étonnés et cependant paisibles. Leur mère est montée aux cieux avec son corps. Forts de leur foi en la résurrection du Christ, dont ils étaient témoins, nourris de la parole de leur maître qui tant de fois leur a parlé de la vie éternelle et la leur a promise, s'ils observaient ses commandements, Les apôtres s'agenouillent en signe d'adoration et de gratitude envers le Tout-Puissant qui vient encore d'accomplir des merveilles pour sa fille bien-aimée, Marie, qui vit désormais au ciel pour toujours. Admire sur cette scène le geste profondément eucharistique de cet homme en prière. Genou en terre, humblement, il reconnaît qu'il doit tout à son Père qui l'a créé. Et il ne veut pas le lui dire seulement avec ses lèvres, mais de tout son être, corps et âme. Son attitude n'est ni servile ni passive. Le visage tourné vers le firmament, cet homme adore Dieu éternellement vivant, au-delà des nuées, accueillant avec toute la cour céleste la nouvelle Ève qui, en permettant l'incarnation du Christ, a ouvert de nouveau la porte du paradis aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Marie, porte du ciel et salut des pécheurs. Marie, secours des agonisants et ferme espérance des mourants qui confient leur âme à celle qui est déjà dans la gloire du paradis. Pour d'autres, c'est un moment d'intense recueillement et de méditation, sans doute dans une profonde union de cœur avec celle qui déjà distribue des grâces de paix et joie intérieure à ses enfants pour qu'ils ne soient pas troublés par le chagrin humain que leur cause sa disparition. L'éblouissante sainteté de la Vierge Marie devient une évidente certitude et une lumineuse nouvelle pour l'intelligence. La Vierge Marie, vrai tabernacle du Fils de Dieu, fut l'arche d'alliance en chair et en os, qui abrita réellement pendant 9 mois, non plus les tables de la loi données par Dieu à Moïse, mais la parole faite chair, le corps de Dieu lui-même devenu pain de vie. Comment pourrait-elle rester au tombeau et tomber en poussière comme les hommes et femmes ordinaires? Et pour eux, quelle confirmation des enseignements du Christ, de cet appel à se convertir, à redevenir cet enfant de Dieu, créé pour partager le bonheur éternel du ciel avec son Père et à annoncer cette bonne nouvelle à toute la terre. Pour nous aussi, pécheurs toujours pardonnables, qui pourrons recevoir en nous le corps du Christ dans la communion eucharistique, quelle merveilleuse promesse! Depuis la mort et la résurrection du Christ, nous savons que la mort est définitivement vaincue. Nos corps, même s'ils se décomposent dans les tombeaux tristes et froides de nos cimetières ou finissent brutalement dans des lieux inattendus, nos corps sont appelés à vivre cette vie divine, glorieuse et bienheureuse qui n'aura pas de fin. La résurrection de la chair fait partie de notre credo avec la vie éternelle. Quand les malheurs du monde ou de nos familles pourraient nous faire pleurer de désespoir, l'Assomption de la Vierge Marie nous fait espérer au-delà de toute espérance humaine. Et ce n'est pas une pieuse consolation, c'est une réalité. Marie est vraiment pour toujours dans la vie bienheureuse avec Dieu. L'Église le croit et l'a proclamé le 1er novembre 1950 par la voix du pape Pie XII, comme elle avait proclamé le 8 décembre 1854 le dogme de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, par la voix du pape Pie IX. La mort n'a pas triomphé de cette mère aimante. Le tombeau resté vide à Jérusalem n'est pas silencieux. Il résonne du chant des anges et de la joie des saints. Il se fait l'écho de la cité du ciel, la Jérusalem céleste, où tout n'est qu'amour et joie. Si tu es baptisé, tu es déjà citoyen du royaume des cieux, portant le sceau royal des enfants de Dieu. Mais ton entrée définitive dans ce royaume, après la mort, dépendra de ta vie terrestre, avec ou sans le Christ, pour ou contre lui, puisqu'il ne peut y avoir de demi-mesure ou de tiédeur dans ce domaine. Saint Matthieu nous rapporte dans son évangile cette parole très claire du Christ à ce sujet. « Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi, dissipe. » Chapitre 11, verset 30. Les sacrements sont là pour t'aider jour après jour à tourner résolument ton visage vers Dieu afin de le contempler éternellement et vivre de sa vie. Si tu n'es pas baptisé, l'Église te le propose pour que tu entres dans cette relation d'amour avec lui et que tu aies part, toi aussi, quand le moment sera venu, à la joie du ciel. Chacun de nous pourra dire alors comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, « Non, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. » Dans les livres des miracles de Notre-Dame de Rocamadour, la Vierge Marie est souvent appelée par ceux qui l'invoquent « Mère de miséricorde, Reine des miséricordes, Reine du monde, Dame de miséricorde » ou encore « Misericordieuse entre tous ». Elle est la Mère du Seigneur, celle qui, après son divin Fils, tient le premier rang dans la cour céleste. Elle est souvent qualifiée de libératrice, parce que les miracles qu'elle obtient de Dieu pour ses enfants en danger ou en grande souffrance ont deux effets. Libération du mal physique ou psychique, tout d'abord en sauvant, guérissant, soulageant, réconfortant ou apaisant ceux qui ont imploré son secours. Libération de la vie spirituelle, parce que le suppliant reconnaît qu'il a besoin de l'aide divine, exprimant ensuite sa gratitude en paroles et en prières, concrétisée souvent par des ex-voto ou des offrandes matérielles pour le sanctuaire qui vont perpétuer l'expression de la gratitude. Chaque fois la personne souffrante ou un membre de sa famille s'est tournée vers Marie pour obtenir sa faveur, convaincue que la Reine du Ciel peut tout obtenir de Dieu près duquel elle vit désormais. Et le fait d'être exaucé peut confirmer la foi et bouleverser le cœur, c'est-à-dire le tourner résolument vers Dieu. Les conversions actuelles en sont un vivant témoignage. C'est l'amour du Christ pour nous que Marie de Rocamadour veut nous révéler. En distribuant les grâces, Marie nous met face à la réalité. Nous avons besoin du Christ pour être sauvés. Les évangiles et le magistère de l'Église ne cessent de nous l'enseigner. Le Christ est la lumière du monde, il est la seule voie de salut, l'unique vérité qui nous rend libres. Si elle est particulièrement invoquée dans les dangers de mort, c'est que Marie est réputée pour se tenir à la porte du ciel. Elle désire que tous ses enfants de la terre, humains comme elle, soient sauvés et obtiennent de partager la vie divine pour l'éternité. Ô Vierge excellente entre toutes, c'est toi qui nous ouvres la porte du ciel, écrit l'auteur de ces récits de miracles. Ainsi, de partout on vient à Rocamadour, ne doutant ni de la miséricorde du Seigneur, ni de la clémence de sa compatissante mère qui l'a suivie dans sa passion jusqu'à l'extrémité de la douleur. Dieu pourrait-il refuser à la glorieuse mère du roi de gloire les faveurs qu'elle lui demande pour ses enfants? Et elle, pourrait-elle laisser en danger de mort ses enfants qu'il implore, après avoir contemplé dans la douleur la plus terrible corps de son Jésus labouré de coups et gisant sans vie au pied de la croix, le cœur transpercé? Comment pourrait-elle ne pas vouloir, comme lui, nous sauver tous? C'est pourquoi la Vierge Marie se plaint parfois qu'on ne l'invoque pas, l'empêchant de donner les grâces qu'elle pourrait déverser sur nous. Elle l'expliqua à Sainte Catherine Labourée, quand elle lui apparut dans son couvent de la rue du Bac, les mains parées de 15 anneaux ornés de pierres précieuses, dont certaines produisaient des rayons lumineux. C'est le symbole des grâces que je répands sur les personnes qui me les demandent. Les pierreries d'où elles ne sortent pas de rayons, ce sont des grâces que l'on oublie de me demander. Sortant de la chapelle Sainte-Anne, lève les yeux, regarde la statue qui a été placée récemment sur le toit, près du porche d'entrée de la basilique. Elle représente Marie, l'Immaculée Conception. Elle n'est plus assise cette fois, mais debout sur le globe terrestre, écrasant sous ses pieds le serpent qui représente le mal, couronnée de gloire et vraiment humble, pourtant dans son attitude. Marie, la toute pure, préservée du péché originel par une grâce divine, est celle que Dieu a choisie pour vaincre Satan. Elle est évoquée au livre de l'Apocalypse comme la femme mettant au monde l'enfant qui doit mener toutes les nations. Femme par excellence parce qu'elle est vraiment parfaitement sainte, mère du Christ Sauveur, reine du ciel et de la terre, l'Immaculée est tout entière à Dieu. Ses mains croisées sur sa poitrine symbolisent ce don d'elle-même à son père, cet abandon à sa volonté qu'elle a exprimé librement le jour de l'Annonciation. Elle ferme les yeux en action de grâce pour les merveilles de Dieu en elle et qui la rendent cause de notre joie. Magnificat. Mais en même temps, elle nous écoute tous depuis le ciel où elle règne, surplombe panoramique, d'où la vue est bien plus large encore que de la falaise de Rocamadour. Ne crois jamais qu'elle puisse t'oublier ou ne pas t'entendre, où que tu sois. Mais puisque tu es là, à ses pieds, dis-lui tout ce que tu portes en toi, tout de suite. Et quoi que tu fasses ensuite, partout, dans la houle ou le brouillard, où nous placent parfois les désordres du monde ou nos propres erreurs, ne crains pas de l'invoquer toujours à ton secours. Notre-Dame de Rocamadour, sauvez-nous. Quand tout s'écroule ou nous menace, elle est notre espérance, ferme comme le roc. Et nous le savons, rien n'est impossible à Dieu. Texte de référence dans les Saintes Écritures. Traduction de la Bible de Jérusalem. Naissance de Saint Jean-Baptiste. Il y eut au jour d'Hérode, roi de Judée, un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Et il avait pour femme une descendante d'Aaron, dont le nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, et ils suivaient irréprochables tous les commandements et observances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile et que tous deux étaient avancés en âge. Or, il advint, comme Zacharie remplissait devant Dieu les fonctions sacerdotales, dans l'ordre de sa classe, qu'il fut, selon la coutume sacerdotale désignée par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler l'encens. Et toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'encens. Alors lui apparut l'ange du Seigneur, debout à droite de l'autel de l'encens. À cette vue, Zacharie fut troublé, et la crainte fondit sur lui. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Tu auras joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson forte. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère, et il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge ?» Et l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel qui me tient devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. » Il s'agit de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 5 à 19. L'Annonciation. L'ange Gabriel fut annoncé, envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et que tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera sur la maison de Jacob pour tous les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur moi, toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. C'est tiré de l'Évangile de saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. La visitation. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein. Et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Alors elle poussa un grand cri et dit « Béni es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Marie dit alors « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les moins vides. Il est venu en aide à Israël son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon qu'il l'avait annoncé à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. » Marie demeura avec elle environ 3 mois. Puis s'en retourna chez elle. C'est tiré de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 39 à 56. Les noces de Cana. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas des noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa femme dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur « Remplissez d'eau les cuves. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit « Maintenant puisez. » et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel est le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana, en Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est tiré de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Mère de tous les hommes. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Et dans l'Évangile de saint Jean, chapitre 19, versets 25 et 27. Éloge de la sagesse. J'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. J'ai invoqué et l'esprit de sagesse m'est venu. Je l'ai préféré au sceptre et au trône, et j'ai tenu pour rien la richesse en comparaison d'elle. Avec elle me sont venus tous les biens, et par ses mains une incalculable richesse. Car elle est pour les hommes un trésor inépuisable. Ceux qui l'acquièrent et s'attirent l'amitié de Dieu. Elle est en effet un esprit intelligent, saint, unique, multiple, subtil, mobile, pénétrant, sans souillure, clair, impassible, ami du bien, prompt, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr, sans souci, équipe tout, surveille tout, pénètre à travers tous les esprits, les intelligents, les purs, les plus subtils. Car plus que tout mouvement, la sagesse est mobile. Elle traverse et pénètre tout à cause de sa pureté. Elle est en effet une effluve de la puissance de Dieu, une émanation toute pure de la gloire du Tout-Puissant. Aussi, rien de souillé ne s'introduit en elle, car elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu, une image de sa bonté. Bien qu'étant seule, elle peut tout, demeurant en elle-même, elle renouvelle l'univers et d'âge en âge, passant en des âmes saintes, elle en fait des amis de Dieu et des prophètes, car Dieu n'aime que celui qui habite avec la sagesse. Elle est en effet plus belle que le soleil, elle surpasse toutes les constellations. Comparée à la lumière, elle l'emporte, car celle-ci fait place à la nuit. Mais contre la sagesse, le mal ne prévaut pas. C'est dans le livre de la sagesse, chapitre 7, versets 7 et 8, 11, 14, 22 à 30. Texte du magistère de l'Église. Extrait de la Constitution apostolique Munificentissimus Sanctissimus Deus. Promulguant le dogme de l'Assomption le 1er novembre 1950. Par sa propre mort, le Christ a vaincu le péché et la mort, et celui qui est surnaturellement régénéré par le baptême triomphe par le même Christ du péché et de la mort. Toutefois, en vertu d'une loi générale, Dieu ne veut pas accorder au juste le plein effet de la victoire sur la mort, sinon quand viendra la fin des temps. C'est pourquoi les corps même des justes sont dissous après la mort et ne seront réunis chacun à sa propre âme glorieuse qu'à la fin des temps. Cependant, Dieu a voulu exempter de cette loi universelle la bienheureuse Vierge Marie. Grâce à un privilège spécial, la Vierge Marie a vaincu le péché par son Immaculée Conception. Et de ce fait, elle n'a pas été sujette à la loi de demeurer dans la corruption du tombeau. Et elle ne dut pas non plus attendre jusqu'à la fin du monde la rédemption de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut solennellement défini que la Vierge Marie, Mère de Dieu, a été préservée dès la conception de la tâche originelle, les fidèles furent remplis d'un plus grand espoir de voir définir le plus tôt possible par le suprême magistère de l'Église le dogme de l'Assomption corporelle au ciel de la Vierge Marie. Alors, puisque l'Église universelle en laquelle vit l'Esprit de vérité, cet Esprit qui la dirige infailliblement pour parfaire la connaissance des vérités révélées, a manifesté de multiples façons sa foi au cours des siècles, et puisque les évêques du monde entier, d'un sentiment presque unanime, demandent que soit définie comme dogme de foi divine et catholique la vérité de l'Assomption au ciel de la Vierge Marie. Nous pensons que le moment fixé par le dessein de Dieu dans sa providence est maintenant arrivé où nous devons déclarer solennellement cet insigne privilège de la Vierge Marie. Nous qui avons confié notre pontificat au patronage particulier de la Très Sainte Vierge, nous avons une entière confiance que cette proclamation et définition solennelle de son Assomption apportera un profit non négligeable à la société humaine, car elle tournera à la gloire de la Très Sainte Trinité, à laquelle la Vierge Marie est unie par des liens tout particuliers. Il faut en effet espérer que tous les fidèles seront portés à une piété plus grande envers leur céleste mère, que les âmes de tous ceux qui se glorifient du nom de chrétiens seront poussés au désir de participer à l'unité du corps mystique de Jésus-Christ et d'augmenter leur amour envers celle qui, à l'égard de tous les membres de cet auguste corps, garde un cœur maternel. Et enfin, que la foi de l'Assomption céleste de Marie dans son corps rendra plus ferme notre foi en notre résurrection et la rendra plus active. C'est pourquoi, après avoir adressé à Dieu d'incessantes et suppliantes prières et invoqué les lumières de l'Esprit de vérité pour la gloire du Dieu Tout-Puissant, nous proclamons, déclarons et définissons que c'est un dogme divinement révélé que Marie, l'Immaculée Mère de Dieu, toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été enlevée en âme et en corps à la gloire céleste. Et pour que notre définition de l'Assomption au ciel de la Vierge Marie dans son corps parvienne à la connaissance de l'Église universelle, nous voulons que nos lettres apostoliques présentes demeurent pour en perpétuer la mémoire. Données à Rome près de Saint-Pierre, l'année du très saint jubilé 1950, le 1er novembre en la fête de tous les saints de notre pontificat, la 12e année. Pie XII, pape de 1939 à 1958. Constitution dogmatique Lumen Gentium. Extrait du chapitre 8, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, dans le mystère du Christ et de l'Église. La Sainte Vierge et l'Église. La Vierge Marie, en effet, qui, lors de l'Annonciation angélique, reçut le Verbe de Dieu à la fois dans son cœur et dans son corps, et présenta au monde la vie, est reconnue et honorée comme la véritable Mère de Dieu et du Rédempteur. Rachetée de façon éminente en considération des mérites de son Fils, unie à lui par un lien étroit et indissoluble, elle reçoit cette immense charge et dignité d'être la mère du Fils de Dieu, et par conséquent la fille de prédilection du Père et le sanctuaire du Saint-Esprit, don exceptionnel de grâce qui la met bien loin au-dessus de toutes les créatures dans le ciel et sur la terre. Mais elle se trouve aussi réunie comme descendante d'Adam à l'ensemble de l'humanité qui a besoin de salut. Bien mieux, elle est vraiment mère des membres du Christ, ayant coopéré par sa charité à la naissance dans l'Église des fidèles qui sont les membres de ce chef. Marie à l'Annonciation. Mais il plut au Père des Miséricordes que l'incarnation fut précédée par une acceptation de la part de cette mère prédestinée, en sorte qu'une femme ayant contribué à l'œuvre de mort, de même une femme contribua aussi à la vie. Ce qui est vrai à un titre exceptionnel de la mère de Jésus, qui donna au monde la vie destinée à tout renouveler, et fut pourvu par Dieu de dons à la mesure d'une si grande tâche. Rien d'étonnant par conséquent à ce que l'usage se soit établi chez les saints, pères, d'appeler la Mère de Dieu la Toute Sainte, indemne de toute tâche de péché, ayant été comme pétrie par l'Esprit Saint, et formée comme une nouvelle créature, enrichie dès le premier instant de sa conception d'une sainteté éclatante, absolument unique, la Vierge de Nazareth est saluée par l'ange de l'Annonciation qui parle au nom de Dieu comme pleine de grâce. Messager céleste auquel elle fait cette réponse, « Voici la servante du Seigneur, qu'il en soit de moi selon ta parole. » Luc chapitre 1, verset 38. Ainsi Marie, fille d'Adam, donnant à la parole de Dieu son consentement, devint mère de Jésus et épousant à plein cœur, sans que nul péché ne la retienne, la volonté divine de salut, se livra elle-même intégralement comme la servante du Seigneur à la personne et à l'œuvre de son Fils pour servir dans sa dépendance et avec lui par la grâce de Dieu Tout-Puissant au mystère de la rédemption. C'est donc à juste titre que les saints pères considèrent Marie non pas simplement comme un instrument passif aux mains de Dieu, mais comme apportant au salut des hommes la coopération de sa libre foi et de son obéissance. En effet, comme dit saint Irénée, par son obéissance, elle est devenue pour elle-même et pour tout le genre humain cause du salut. Aussi, avec lui, un bon nombre d'anciens, le Père, disent volontiers dans leurs prédications, « Le nœud dû à la désobéissance d'Ève s'est dénoué par l'obéissance de Marie. Ce qu'Ève, la Vierge, avait noué par son incrédulité, la Vierge Marie l'a dénoué par sa foi. » Comparant Marie avec Ève. Ils appellent Marie la mère des vivants et déclarent souvent « Par Ève la mort, par Marie la vie ». La Sainte Vierge est l'enfance de Jésus. Cette union de la mère avec son fils dans l'œuvre du salut est manifeste dès l'heure de la conception virginale du Christ jusqu'à sa mort. Et d'abord, quand Marie, partant en hâte pour visiter Élisabeth, est saluée par elle du nom de bienheureuse pour avoir cru au salut promis, tandis que le précurseur tressaillait au sein de sa mère. Luc chapitre 1, verset 41-45. Lors de la nativité ensuite, quand la mère de Dieu présenta dans la joie au pasteur et aux mages son fils premier-né, dont la naissance était non la perte, mais la consécration de son intégrité virginale. Puis, lorsque dans le temple, après avoir fait l'offrande des pauvres, elle présenta son fils au Seigneur. Elle entendit Siméon prophétiser en même temps que le fils serait un signe de contradiction et que l'âme de la mère serait transpercée d'un glaive. Ainsi se révéleraient les pensées intimes d'un grand nombre. Luc chapitre 2, verset 34-35. Ayant perdu l'enfant Jésus et l'ayant cherché avec angoisse, ses parents le trouvèrent au temple, occupé dans la maison de son père, et les paroles du fils ne furent pas comprises par eux. Sa mère cependant gardait tout cela dans son cœur et le méditait. Luc chapitre 2, verset 41-51. La Sainte Vierge est le ministère public de Jésus. Pendant la vie publique de Jésus, sa mère apparaît expressément et dès le début, quand aux noces de Cana en Galilée, touchée de pitié, elle provoque par son intercession le premier signe de Jésus le Messie. Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Au cours de la prédication de Jésus, elle accueillit les paroles par lesquelles le Fils, mettant le royaume au-delà des considérations et des liens de la chair et du sang, proclamez bienheureux ceux qui écoutent et observent la parole de Dieu. Marc chapitre 3 verset 35 et Luc chapitre 11 verset 25-28. Comme elle le faisait finalement en elle-même, ainsi la bienheureuse Vierge avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix, où non sans un dessein divin elle était debout. Souffrant cruellement avec son fils unique, associé d'un cœur maternel à son sacrifice, donnant à l'immolation de la victime née de sa chair le consentement de son amour pour être enfin par le même Christ Jésus mourant sur la croix, donné comme sa mère aux disciples par ces mots « Femme, voici ton fils ». La Sainte Vierge après l'Ascension. Mais Dieu, ayant voulu que le mystère du salut des hommes ne se manifestât ouvertement qu'à l'heure où il répandrait l'Esprit promis par le Christ, on voit les apôtres avant le jour de la Pentecôte, persévérant d'un même cœur dans la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Actes chapitre 1, verset 14. Il envoie Marie appelant elle aussi de ses prières le don de l'Esprit qui à l'Annonciation l'avait déjà elle-même prise sous son ombre. Enfin, la Vierge Immaculée préservée par Dieu de toute souillure de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée, corps et âme, à la gloire du ciel et exaltée par le Seigneur comme la Reine de l'Univers pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des Seigneurs, victorieux du péché et de la mort. Concile Vatican II.